rien qu'en approchant de chez les Verdurin, quand il apercevait, éclairé par des lampes, les grandes fenêtres dont on ne fermait jamais les volets, il s'attendrissait en pensant à l'être charmant qu'il allait voir épanoui dans leur lumière d'or. Parfois, les ombres des invités se détachaient, minces et noires, en écran, devant les lampes, comme ces petites gravures qu'on intercale de place en place dans un abat-jour translucide dont les autres feuillets ne sont que clarté. Il cherchait à distinguer la silhouette d'Odette, puis dès qu'il était arrivé, sans qu'il s'en rendît compte, ses yeux brillaient d'une telle joie que M. Verdurin disait au peintre « Je crois que ça chauffe ». Et la présence d'Odette ajoutait en effet pour Swann à cette maison ce dont n'était pourvue aucune de celles où il était reçu, une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Ainsi, le simple fonctionnement de cet organisme social qu'était le petit clan prenait automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de feindre une indifférence à la voir, ou même un désir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas courir de grands risques, puisque quoi qu'il lui eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Mais une fois qu'ayant songé avec Maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurin. Il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait pas, était partie. En voyant qu'elle n'était pas dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette certitude de le trouver quand il le voulait, qui pour tous les plaisirs nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. As-tu vu la tête qu'il a fait quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là ? Dit M. Verdurin à sa femme. Je crois qu'on peut dire qu'il est pincé. La tête qu'il a fait ? Demanda avec violence le docteur Cottard, qui, étant allé un instant voir un malade, revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait. « Comment, vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des Swann ?»« Non, Monsieur Swann est venu ?»« Oh, un instant seulement, nous avons eu un Swann très agité, très nerveux. »« Vous comprenez, Odette était partie. »« Vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui ?»« Qu'elle lui a fait voir l'heure du berger ?» dit le docteur, expérimentant avec prudence le sens de ses expressions. Mais non, il n'y a absolument rien, et entre nous, je trouve qu'elle a bien tort et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche. Qu'elle est, du reste. Ta ta ta, dit M. Verdurin, qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a rien? Nous n'avons pas été y voir, n'est-ce pas? À moi, elle me l'aurait dit, répliqua fièrement Mme Verdurin. Je vous dis qu'elle me raconte toutes ces petites affaires. Comme elle n'a plus personne en ce moment, je lui ai dit qu'elle devrait coucher avec lui. Elle prétend qu'elle ne peut pas, qu'elle a bien eu un fort béguin pour lui, mais qu'il est timide avec elle, que cela l'intimide à son tour, et puis qu'elle ne l'aime pas de cette manière-là, que c'est un idéal, qu'elle a peur de déflorer le sentiment qu'elle a pour lui. Est-ce que je sais, moi? Ce serait pourtant absolument ce qu'il lui faut. Tu me permettras de ne pas être de ton avis, dit M. Verdurin. Il ne me revient qu'à demi, ce monsieur. Je le trouve poseur. Madame Verdurin s'immobilisa, prit une expression inerte comme si elle était devenue une statue, fiction qui lui permit d'être censée ne pas avoir entendu ce mot insupportable de poseur, qui avait l'air d'impliquer qu'on pouvait poser avec eux, donc qu'on était plus qu'eux. Enfin, s'il n'y a rien, je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croit vertueuse, dit ironiquement M. Verdurin, et après tout, on ne peut rien dire, puisqu'il a l'air de la croire intelligente. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'il lui débitait l'autre soir sur la sonate de Vinteuil. J'aime Odette de tout mon cœur, et pour lui faire des théories d'esthétique, il faut tout de même être un fameux jobard. Voyons, ne dites pas du mal d'Odette, dit Madame Verdurin en faisant l'enfant. elle est charmante. » Mais cela ne l'empêche pas d'être charmante. Nous ne disons pas du mal d'elle, nous disons que ce n'est pas une vertu, ni une intelligence. « Au fond, dit-il au peintre, tenez-vous tant que ça à ce qu'elle soit vertueuse, elle serait peut-être moins charmante, qui sait ?» Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel, qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé, et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien une heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost, mais à chaque pas sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient, odieux obstacle qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'agent ne l'eût pas retardé plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui eût laissé croire plus grande qu'elle n'était en réalité, sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurin qu'Odette était déjà partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi ? Toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain ? Ce que précisément il avait souhaité il y a une heure, en se rendant chez Madame Verdurin. Il fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost, il n'était plus le même et qu'il n'était plus seul, qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, avec qui il allait être obligé d'user de ménagement comme avec un maître ou avec une maladie. Et pourtant, depuis un moment qu'il sentait qu'une nouvelle personne s'était ainsi ajoutée à lui, sa vie lui paraissait plus intéressante. C'est à peine s'il se disait que cette rencontre possible chez Prévost, de laquelle l'attente saccagée dénudait à ce point les moments qui la précédaient, qu'il ne trouvait plus une seule idée, un seul souvenir derrière lequel il put faire reposer son esprit, il était probable pourtant, si elle avait lieu, qu'elle serait comme les autres, fort peu de choses. Comme chaque soir, dès qu'il serait avec Odette, jetant furtivement sur son changeant visage un regard aussitôt détourné de peur qu'elle n'y vît l'avance d'un désir et ne crût plus à son désintéressement, il cesserait de pouvoir penser à elle, trop occupé à trouver des prétextes qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite et de s'assurer, sans avoir l'air d'y tenir, qu'il la retrouverait le lendemain chez les Verdurin. C'est-à-dire de prolonger pour l'instant et de renouveler un jour de plus la déception et la torture que lui apportait la vaine présence de cette femme qu'il approchait sans oser l'étreindre. Elle n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémy, le doge Laurédan de Rizeau, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même, à l'endroit qu'il lui avait désigné. La voiture ne revenait pas, et Swann se représentait le moment qui approchait, à la fois comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame est là », et comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame n'était dans aucun des cafés ». Et ainsi, il voyait la fin de la soirée devant lui, une et pourtant alternative, précédée soit par la rencontre d'Odette qui abolirait son angoisse, soit par le renoncement forcé à la trouver ce soir, par l'acceptation de rentrer chez lui, sans l'avoir vue. Le cocher revint, mais au moment où il s'arrêta devant Swann, celui-ci ne lui dit pas « Avez-vous trouvé cette dame ?» Mais faites-moi donc penser demain à commander du bois. Je crois que la provision doit commencer à s'épuiser. Peut-être se disait-il que si Rémy avait trouvé Odette dans un café où elle l'attendait, La fin de la soirée néfaste était déjà anéantie par la réalisation commencée de la fin de soirée bienheureuse, et qu'il n'avait pas besoin de se presser d'atteindre un bonheur capturé et en lieu sûr, qui ne s'échapperait plus. Mais aussi c'était par force d'inertie, il avait dans l'âme le manque de souplesse que certains êtres ont dans le corps, ceux-là qui, au moment d'éviter un choc, d'éloigner une flamme de leur habit, d'accomplir un mouvement urgent, prennent leur temps, commencent par rester une seconde dans la situation où ils étaient auparavant, comme pour y trouver leur point d'appui, leur élan. Et sans doute, si le cocher l'avait interrompu en lui disant « Cette dame est là », il lui répondu « Ah oui, c'est vrai, la course que je vous avais donnée. Tiens, je n'aurais pas cru. » Et aurait continué à lui parler provision de bois pour lui cacher l'émotion qu'il avait eue, et se laisser à lui-même le temps de rompre avec l'inquiétude et de se donner au bonheur. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part, et ajouta son avis en vieux serviteur « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer ». Mais l'indifférence que Swann jouait facilement quand Rémy ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait, tomba quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout, s'écria-t-il. Il faut que nous trouvions cette dame, c'est de la plus haute importance. Elle serait extrêmement ennuyée pour une affaire et froissée si elle ne m'avait pas vu. » « Je ne vois pas comment cette dame pourrait être froissée, répondit Rémy, puisque c'est elle qui est partie sans attendre monsieur, qu'elle a dit qu'elle allait chez Prévost et qu'elle n'y était pas. » D'ailleurs, on commençait à éteindre partout. Sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui, lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ses corps obscurs, comme si parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. De tous les modes de production de l'amour, de tous les agents de dissémination du mal sacré, il est bien l'un des plus efficaces, ce grand souffle d'agitation qui parfois passe sur nous. Alors l'être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c'est lui que nous aimerons. Il n'est même pas besoin qu'il nous plût jusque-là plus ou même autant que d'autres. Ce qu'il fallait, c'est que notre goût pour lui devint exclusif, et cette condition-là est réalisée quand, à ce moment où il nous fait défaut, à la recherche des plaisirs que son agrément nous donnait, s'est brusquement substitué en nous un besoin anxieux qui a pour objet cet être même, un besoin absurde que les lois de ce monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir, le besoin insensé et douloureux de le posséder. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants. C'est la seule hypothèse du bonheur qu'il avait envisagée avec calme. Il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu'il attachait à cette rencontre, et il promit en cas de succès une récompense à son cocher, comme si, en lui inspirant le désir de réussir qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire Codette, au cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouva pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra deux fois chez Tortoni, et sans l'avoir vue davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, pour rejoindre sa voiture qui l'attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte et elle regagnait sa voiture. Elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi. Quant à lui, il avait couru Paris non parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il lui était trop cruel d'y renoncer. Mais cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable ne lui en paraissait maintenant que plus réelle, car il n'y avait pas collaboré par la prévision des vraisemblables, elle lui restait extérieure. Il n'avait pas besoin de tirer de son esprit pour la lui fournir. C'est elle-même qu'émanait, c'est elle-même qui projetait vers lui cette vérité qui rayonnait au point de dissiper comme un songe l'isolement qu'il avait redouté et sur laquelle il appuyait, il reposait, sans penser, sa rêverie heureuse. Ainsi, un voyageur arrivé par un beau temps au bord de la Méditerranée, incertain de l'existence des pays qu'il vient de quitter, laisse éblouir sa vue, plutôt qu'il ne leur jette des regards, par les rayons qu'émet vers lui, l'azur lumineux et résistant des eaux. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de cattleyas et Swann vit sous sa fanchon de dentelle qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une écrête en plume de cygne. Elle était habillée sous sa mantille d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement, également de faille blanche, à l'ouverture du corsage décolleté où étaient enfoncées d'autres fleurs de cattleyas. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir, puis il lui dit « Surtout ne parlez pas, ne me répondez que par signe, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant, « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Non, surtout ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste, je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu... Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main. Je ne vais pas trop fort, je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer, ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même... « Sérieusement, je ne vous suis pas désagréable. Et en les respirant, pour voir s'ils n'ont pas vraiment d'odeur non plus, je n'en ai jamais senti. Je peux ?»« Dites la vérité. » Souriant, elle haussa légèrement les épaules, comme pour dire « Vous êtes fou. Vous voyez bien que ça me plaît. » Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle le regarda fixement, de l'air languissant et grave qu'ont les femmes du maître Florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance. Amené au bord des paupières, ses yeux brillants, larges et minces, comme les leurs, semblaient prêts à se détacher ainsi que de larmes. Elle fléchissait le cou comme on leur voit faire à toutes, dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux. Et en une attitude qui sans doute lui était habituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là, et qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attirée vers Swann. Et ce fut Swann, qui, avant qu'elle le laissât tomber, comme malgré elle, sur ses lèvres, le retint un instant, à quelque distance, entre ses deux mains. Il avait voulu laisser à sa pensée le temps d'accourir, de reconnaître le rêve qu'elle avait si longtemps caressé et d'assister à sa réalisation, comme une parente qu'on appelle pour prendre sa part du succès d'un enfant qu'elle a beaucoup aimé. Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette non encore possédé ni même encore embrassé par lui, qu'il voyait pour la dernière fois, ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. Mais il était si timide avec elle, qu'ayant fini par la posséder ce soir-là en commençant par arranger ses quatre liasses, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là qu'il pouvait renouveler puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois, les jours suivants il usa du même prétexte. Si elle avait des quatre liasses à son corsage, il disait « C'est malheureux, ce soir les quatre liasses n'ont pas besoin d'être arrangées, ils n'ont pas été déplacés comme l'autre soir. Il me semble pourtant que celui-ci n'est pas très droit. Je peux voir s'ils ne sentent pas plus que les autres. » Ou bien si elle n'en avait pas, « Oh, pas de quatre liasses ce soir, pas moyen de me livrer à mes petits arrangements. » De sorte que pendant quelque temps ne fut pas changé l'ordre qu'il avait suivi le premier soir en débutant par des attouchements de doigts et de lèvres sur la gorge d'Odette, et que ce fut par eux encore que commençaient chaque fois ses caresses, et bien plus tard, quand l'arrangement ou le simulacre d'arrangement des catéias fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire catéias » devenu un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, où d'ailleurs l'on ne possède rien, survécut dans leur langage, où elle le commémorait à cet usage oublié. Et peut-être cette manière particulière de dire faire l'amour ne signifiait-elle pas exactement la même chose que ses synonymes ? On a beau être blasé sur les femmes, considérer la possession des plus différentes comme toujours la même et connue d'avance. Elle devient au contraire un plaisir nouveau s'il s'agit de femmes assez difficiles ou crues-elles par nous pour que nous soyons obligés de la faire naître de quelque épisode imprévu de nos relations avec elle, comme avait été la première fois pour Swann l'arrangement des catléias. Il espérait en tremblant ce soir-là, mais Odette, se disait-il, si elle était dupe de sa ruse, ne pouvait le deviner, que c'était la possession de cette femme qui allait sortir d'entre leurs larges pétales mauves. Et le plaisir qu'il éprouvait déjà, et qu'Odette ne tolérait peut-être, pensait-il, que parce qu'elle ne l'avait pas reconnu, lui semblait, à cause de cela, comme il put paraître au premier homme qui le goûta parmi les fleurs du paradis terrestre, un plaisir qui n'avait pas existé jusque-là, qu'il cherchait à créer, un plaisir ainsi que le nom spécial qu'il lui donna en garda la trace, entièrement particulier et nouveau. Maintenant, tous les soirs, quand il l'avait ramenée chez elle, il fallait qu'il entrât, et souvent elle ressortait en robe de chambre et le conduisait jusqu'à sa voiture, l'embrassait aux yeux du cocher, disant « Qu'est-ce que cela peut me faire? Que me font les autres ?» Les soirs où il n'allait pas chez les Verdurin, ce qui arrivait parfois depuis qu'il pouvait la voir autrement, les soirs de plus en plus rares où il allait dans le monde, elle lui demandait de venir chez elle avant de rentrer, quelque heure qu'il fût. C'était le printemps, un printemps pur et glacé. En sortant de soirée, il montait dans sa Victoria, étendait une couverture sur ses jambes, répondait aux amis qui s'en allaient en même temps que lui et lui demandait de revenir avec eux qu'il ne pouvait pas, qu'il n'allait pas du même côté, et le cocher partait au grand trot, sachant où on allait. Eux s'étonnaient, de fait, Swann n'était plus le même. On ne recevait plus jamais de lettres de lui où il demanda à connaître une femme. Il ne faisait plus attention à aucune, s'abstenait d'aller dans les endroits où on en rencontre. Dans un restaurant à la campagne, il avait l'attitude inverse de celle à quoi hier encore on l'eût reconnu et qui avait semblé devoir toujours être la sienne. Tant une passion est en nous comme un caractère momentané et différent qui se substitue à l'autre et abolit les signes jusque-là invariables par lesquels il s'exprimait. En revanche, ce qui était invariable maintenant, c'était que, où que Swann se trouvât, il ne manqua pas d'aller rejoindre Odette. Le trajet qui le séparait d'elle était celui qu'il parcourait inévitablement, et comme la pente même, irrésistible et rapide, de sa vie. À vrai dire, souvent resté tard dans le monde, il aurait mieux aimé rentrer directement chez lui sans faire cette longue course, et ne la voir que le lendemain, mais le fait même de se déranger à une heure anormale pour aller chez elle, de deviner que les amis qui le quittaient se disaient « Il est très tenu, il y a certainement une femme qui le force à aller chez elle à n'importe quelle heure », lui faisait sentir qu'il menait la vie des hommes qui ont une affaire amoureuse dans leur existence, et en qui le sacrifice qu'ils font de leur repos et de leurs intérêts à une rêverie voluptueuse fait naître un charme intérieur. Puis, sans qu'il s'en rendît compte, cette certitude qu'elle l'attendait, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres, qu'il ne reviendrait pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse oubliée, mais toujours prête à renaître, qu'il avait éprouvée le soir où Odette n'était plus chez les Verdurin, et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie, pour nous il nous semble appartenir à un autre univers. Il s'entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante, où il sera plus ou moins rapproché de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce qu'Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir. Parfois, en voyant de sa Victoria dans ses belles nuits froides, la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux et les rues désertes, il pensait à cette autre figure, claire et légèrement rosée comme celle de la lune, qui un jour avait surgi dans sa pensée, et depuis projeté sur le monde la lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait. S'il arrivait, après l'heure où Odette envoyait ses domestiques se coucher, avant de sonner à la porte du petit jardin, il allait d'abord dans la rue, où donnait au rez-de-chaussée, entre les fenêtres toutes pareilles, mais obscures, des hôtels contigus, la fenêtre seule éclairée de sa chambre. Il frappait au carreau, et elle, avertie, répondait et allait l'attendre de l'autre côté à la porte d'entrée. Il trouvait ouvert sur son piano quelques-uns des morceaux qu'elle préférait, la valse des roses ou « Pauvre fou » de Tagliafico qu'on devait, selon sa volonté écrite, faire exécuter à son enterrement. Il lui demandait de jouer à la place la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Bien qu'Odette jouât fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées, une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur et qui pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. Avoir le visage de Swann pendant qu'il écoutait la phrase, on aurait dit qu'il était en train d'absorber un anesthésique qui donnait plus d'amplitude à sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique et qui allait bientôt créer chez lui un véritable besoin ressemblait en effet, à ces moments-là, au plaisir qu'il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en contact avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme, parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification, parce qu'il échappe à notre intelligence, que nous n'atteignons que par un seul sens. Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann, pour lui dont les yeux, quoique délicats amateurs de peinture, dont l'esprit, quoique fin observateur de mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie, de se sentir transformé en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique, ne percevant le monde que par lui. Et comme dans la petite phrase, il cherchait cependant un sens où son intelligence ne pouvait descendre, quelle étrange ivresse il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de tous les secours du raisonnement et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur du son. Il commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y a de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase. Mais il ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile, le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait, il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois à Odette, exigeant qu'en même temps, elle ne cessa pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres, et on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donnés pendant une heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens ? Je ne peux tout faire à la fois, sache au moins ce que tu veux. » Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ? Lui se fâchait et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers. Ou bien elle le regardait d'un air maussade et il revoyait un visage digne de figurer dans la vie de Moïse de Botticelli. Il l'y situait, il donnait au cou d'Odette l'inclinaison nécessaire et quand il l'avait bien peinte à la détrempe au XVe siècle sur la muraille de la Sixtine, l'idée qu'elle était cependant restée là, près du piano, dans le moment actuel, prête à être embrassée et possédée, l'idée de sa matérialité et de sa vie venait l'enivrer avec une telle force que, l'œil égaré, les mâchoires tendues comme pour dévorer, il se précipitait sur cette vierge de Botticelli et se mettait à lui pincer les joues. Puis, une fois qu'il l'avait quittée, sans être rentré pour l'embrasser encore, parce qu'il avait oublié d'emporter dans son souvenir quelques particularités de son odeur ou de ses traits, il revenait dans sa Victoria, bénissant Odette de lui permettre ses visites quotidiennes, dont il sentait qu'elle ne devait pas lui causer à elle une bien grande joie, mais qui, en le préservant de devenir jaloux, en lui ôtant l'occasion de souffrir de nouveau du mal qui s'était déclaré en lui le soir où il ne l'avait pas trouvé chez les Verdurin, l'aiderait à arriver sans avoir plus d'autres de ces crises dont la première avait été si douloureuse et restaurée la seule, au bout de ces heures singulières de sa vie, heures presque enchantées, à la façon de celle où il traversait Paris au clair de lune. Et remarquant pendant ce retour que l'astre était maintenant déplacé par rapport à lui et presque au bout de l'horizon, sentant que son amour obéissait lui aussi à des lois immuables et naturelles, il se demandait si cette période où il était entré durerait encore longtemps. Si bientôt sa pensée ne verrait plus le cher visage qu'occupant une position lointaine et diminuée, et près de cesser de répandre du charme. Car Swann en trouvait aux choses depuis qu'il était amoureux, comme au temps où, adolescent, il se croyait artiste. Mais ce n'était plus le même charme. Celui-ci, c'est Odette seule qui le leur conférait. Il sentait renaître en lui les inspirations de sa jeunesse qu'une vie frivole avait dissipées, mais elle portait tout le reflet, la marque d'un être particulier. Et dans les longues heures qu'il prenait maintenant un plaisir délicat à passer chez lui, seul avec son âme en convalescence, il redevenait peu à peu lui-même, mais à une autre. Il n'allait chez elle que le soir, et il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé, au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire, ni quelle avait été sa vie. Il souriait seulement quelquefois en pensant qu'il y a quelques années, quand il ne la connaissait pas, on lui avait parlé d'une femme qui, s'il se rappelait bien, devait certainement être elle, comme d'une fille, d'une femme entretenue, une de ces femmes auxquelles il attribuait encore, comme il avait peu vécu dans leur société, le caractère entier foncièrement pervers dont les dota longtemps l'imagination de certains romanciers. Il se disait qu'il y a souvent qu'à prendre le contre-pied des réputations que fait le monde pour juger exactement une personne. Quant à un tel caractère, il opposait celui d'Odette, bonne, naïve, éprise d'idéal, presque si incapable de ne pas dire la vérité que l'ayant un jour prié pour pouvoir dîner seul avec elle, d'écrire au Verdurin qu'elle était souffrante. Le lendemain, il l'avait vue devant Madame Verdurin, qui lui demandait si elle allait mieux, rougir, balbutier, et refléter malgré elle sur son visage le chagrin, le supplice que cela lui était de mentir, et tandis qu'elle multipliait dans sa réponse les détails inventés sur sa prétendue indisposition de la veille, avoir l'air de faire demander pardon par ses regards suppliants et sa voix désolée de la fausseté de ses paroles. Certains jours pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie ou cette étude sur Vermeer à laquelle il s'était remis dernièrement. On venait lui dire que Madame de Crécy était dans son petit salon, il allait l'y retrouver, et quand il ouvrait la porte, au visage rosé d'Odette, dès qu'elle avait aperçu Swann, venait, changeant la forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelé de ses joues, se mélangeait un sourire. Une fois seul, il revoyait ce sourire, celui qu'elle avait eu la veille, un autre dont elle l'avait accueilli telle ou telle fois, celui qui avait été sa réponse en voiture quand il lui avait demandé s'il lui était désagréable en redressant les cadléas. Et la vie d'Odette pendant le reste du temps, comme il n'en connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans couleur, semblable à ces feuilles d'études de Watteau, où on voit ça et là, à toutes les places, dans tous les sens, dessinées aux trois crayons sur le papier chamois, d'innombrables sourires. Mais parfois, dans un coin de cette vie que Swann voyait toute vide, si même son esprit lui disait qu'elle ne l'était pas, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer, quelque ami qui, se doutant qu'il s'aimait, ne se fût pas risqué à lui rien dire d'elle que d'insignifiant, lui décrivait la silhouette d'Odette qu'il avait aperçue le matin même, montant à pied la rue Abatucci dans une visite garnie de skinks, sous un chapeau à la Rembrandt et un bouquet de violettes à son corsage. Ce simple croquis bouleversait Swann, parce qu'il lui faisait tout d'un coup apercevoir qu'Odette avait une vie qui n'était pas tout entière à lui. Il voulait savoir à qui elle avait cherché à plaire par cette toilette qu'il ne lui connaissait pas. Il se promettait de lui demander où elle allait à ce moment-là, comme si dans toute la vie incolore, presque inexistante parce qu'elle lui était invisible de sa maîtresse, il n'y avait qu'une seule chose en dehors de tous ses sourires adressés à lui, sa démarche sous un chapeau à la Rembrandt avec un bouquet de violettes au corsage. Sauf en lui demandant la petite phrase de Vinteuil au lieu de la valse des roses, Swann ne cherchait pas à lui faire jouer plutôt des choses qu'il aima, et pas plus en musique qu'en littérature, à corriger son mauvais goût. Il se rendait bien compte qu'elle n'était pas intelligente. En lui disant qu'elle aimerait tant qu'il lui parlât des grands poètes, elle s'était imaginée qu'elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques dans le genre de ceux du vicomte de Borelli, en plus émouvant encore. Pour Vermeer de Delphes, elle lui demanda s'il avait souffert par une femme. Si c'était une femme qui l'avait inspirée, et Swann lui ayant avoué qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre. Elle disait souvent, « Je crois bien, la poésie naturellement, il n'y aurait rien de plus beau si c'était vrai, si les poètes pensaient tout ce qu'ils disent. Mais bien souvent, il n'y a pas plus intéressé que ces gens-là. J'en sais quelque chose, j'avais une amie qui a aimé une espèce de poète. Dans ses vers, il ne parlait que de l'amour, du ciel, des étoiles. Ah, ce qu'elle a été refaite! Il lui a croqué plus de 300 000 francs. » Si alors Swann cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux, au bout d'un instant, elle cessait d'écouter, disant « Oui, je ne me figurais pas que c'était comme cela. » Et il sentait qu'elle éprouvait une telle déception qu'il préférait mentir en lui disant que tout cela n'était rien, que ce n'était encore que des bagatelles, qu'il n'avait pas le temps d'aborder le fond, qu'il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement « Autre chose ? Quoi ? Dis-le alors !» Mais il ne le disait pas, sachant combien cela lui paraîtrait mince et différent de ce qu'elle espérait, moins sensationnel et moins touchant, et craignant que, désillusionnée de l'art, elle ne le fût en même temps de l'amour. Et en effet, elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce qu'elle aurait cru. « Tu gardes toujours ton sang-froid, je ne peux te définir. » Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse pour chacun, de sa délicatesse. Et il arrive en effet souvent, pour de plus grand que n'était Swann, pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui prouve que la supériorité de son intelligence est imposée à eux, ce n'est pas leur admiration pour ses idées, car elle leur échappe, mais leur respect pour sa bonté. C'est aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Swann dans le monde, mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir. Peut-être sentait-elle qu'il ne pourrait pas y réussir, et même craignait-elle que, rien qu'en parlant d'elle, il ne provoquât des révélations qu'elle redoutait. Toujours est-il qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Swann objectait, mais tout le monde n'a pas connu ton amie. Mais si, ça fait la tache d'huile. Le monde est si méchant. D'une part, Swann ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait que ses propositions « le monde est si méchant » et « un propos calomnieux fait la tache d'huile » sont généralement tenus pour vrais. Il devait y avoir des cas auxquels elle s'appliquait. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet lui aussi à cette lourdeur d'esprit qui s'appesantissait sur son père quand il se posait un problème difficile. D'ailleurs, ce monde qui faisait si peur à Odette ne lui inspirait peut-être pas de grands désirs, car pour qu'elle se le représentât bien nettement, il était trop éloigné de celui qu'elle connaissait. Pourtant, en étant restée à certains égards vraiment simple, elle avait par exemple gardé pour amie une petite couturière retirée dont elle grimpait presque chaque jour l'escalier raide, obscur et fétide. Elle avait soif de chic, mais ne s'en faisait pas la même idée que les gens du monde. Pour eux, le chic est une émanation de quelques personnes peu nombreuses qui le projettent jusqu'à un degré assez éloigné et plus ou moins affaibli dans la mesure où l'on est distant du centre de leur intimité, dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de répertoire. Les gens du monde le possèdent dans leur mémoire, ils ont sur ces matières une érudition d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swann, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms des personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance du chic de ce dîner. Comme un lettré, à la simple lecture d'une phrase, apprécie exactement la qualité littéraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes extrêmement nombreuses, quoi qu'en pensent les gens du monde, et comme il y en a dans toutes les classes de la société, qui ne possèdent pas ces notions. Imagine un chic tout autre, qui revêt divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent, mais a pour caractère particulier, que ce soit celui dont rêvait Odette ou celui devant lequel s'inclinait Madame Cottard, d'être directement accessible à tous. L'autre, celui des gens du monde, l'est à vrai dire aussi, mais il y faut quelques délais. Odette disait de quelqu'un « il ne va jamais que dans les endroits chics ». Et si Swann lui demandait ce qu'elle entendait par là, elle lui répondait avec un peu de mépris « Mais les endroits chics, parbleu, si à ton âge il faut apprendre ce que c'est que les endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi ? Par exemple, le dimanche matin, l'avenue de l'Impératrice, à 5 heures le tour du lac, le jeudi, l'Éden Théâtre, le vendredi, l'Hippodrome, les bals. Mais quels bals ? Mais les bals qu'on donne à Paris, les bals chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais celui qui est chez un coulissier. Mais si tu dois savoir, c'est un des hommes les plus lancés de Paris, ce grand jeune homme blond qui est tellement snob. Il a toujours une fleur à la boutonnière, une raie dans le dos, des paletots clairs. Il est avec ce vieux tableau qu'il promène à toutes les premières. Eh bien, il a donné un bal l'autre soir. Il y avait tout ce qu'il y a de chic à Paris. Ce que j'aurais aimé y aller. Mais il fallait présenter sa carte d'invitation à la porte, et je n'avais pas pu en avoir. Au fond, j'aime autant ne pas y être allé, c'était une tuerie, je n'aurais rien vu. C'est plutôt pour pouvoir dire qu'on était chez Herbinger, et tu sais, moi, la gloriole. Du reste, tu peux bien te dire que sur 100 qui racontent qu'elles y étaient, il y a bien la moitié dont ça n'est pas vrai. Mais ça m'étonne que toi, un homme si pchit, tu n'y étais pas. Mais Swann ne cherchait nullement à lui faire modifier sa conception du chic, pensant que la sienne n'était pas plus vraie, était aussi sotte dénuée d'importance, il ne trouvait aucun intérêt à en instruire sa maîtresse, si bien qu'après des mois, elle ne s'intéressait aux personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, de concours hippique, les billets de première qu'il pouvait avoir par elle. Elle souhaitait qu'il cultivât des relations si utiles, mais elle était par ailleurs portée à les croire peu chic, depuis qu'elle avait vu passer dans la rue la marquise de Villeparisis, en robe de laine noire, avec un bonnet à bride. Mais elle a l'air d'une ouvreuse, d'une vieille concierge, darling. Ça, une marquise. Je ne suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippée comme ça. Elle ne comprenait pas que Swann habitât l'hôtel du Quai d'Orléans, que, sans oser le lui avouer, elle trouvait indigne de lui. Certes, elle avait la prétention d'aimer les antiquités et prenait un air ravi et fin pour dire qu'elle adorait passer toute une journée à bibloter, à chercher du bric-à-brac, des choses du temps. Bien qu'elle s'entêtât dans une sorte de point d'honneur et semblât pratiquer quelques préceptes familiales en ne répondant jamais aux questions et en ne rendant pas de compte sur l'emploi de ses journées, elle parla une fois à Swann d'une amie qui l'avait invitée et chez qui tout était de l'époque. Mais Swann ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait des boiseries. Quelque temps après, elle lui reparla de son ami et ajouta sur le ton hésitant et de l'air entendu dont on cite quelqu'un avec qui on a dîné la veille et dont on n'avait jamais entendu le nom mais que vos amphitryons avaient l'air de considérer comme quelqu'un de si célèbre qu'on espère que l'interlocuteur saura bien de qui vous voulez parler. Elle a une salle à manger du 18e. Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la maison n'était pas finie, les femmes y paraissaient affreuses et la mode n'en prendrait jamais. Enfin, une troisième fois, elle en reparla et montra à Swann l'adresse de l'homme qui avait fait cette salle à manger et qu'elle avait envie de faire venir quand elle aurait de l'argent pour voir s'il ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle qu'elle rêvait et que malheureusement les dimensions de son petit hôtel ne comportaient pas, avec de hauts dressoirs, des meubles Renaissance et des cheminées comme au château de Blois. Ce jour-là, elle laissa échapper devant Swann ce qu'elle pensait de son habitation du Quai d'Orléans. Comme il avait critiqué que l'ami d'Odette donna non pas dans le Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut être charmant, mais dans le faux ancien, tu ne voudrais pas qu'elle vécût comme toi au milieu de meubles cassés et de tapis usés, lui dit-elle, le respect humain de la bourgeoise l'emportant encore chez elle sur le dilettantisme de la cocotte. De ceux qui aimaient à bibloter, qui aimaient les vers, méprisaient les bas calculs, rêvaient d'honneur et d'amour, elle faisait une élite supérieure au reste de l'humanité. Il n'y avait pas besoin qu'on eût réellement ses goûts pourvu qu'on les proclamât. D'un homme qui lui avait avoué à dîner qu'il aimait à flâner, à se salir les doigts dans les vieilles boutiques, qu'il ne serait jamais apprécié par ce siècle commercial car il ne se souciait pas de ses intérêts et qu'il était pour cela d'un autre temps, elle revenait en disant « Mais c'est une âme adorable, insensible, je ne m'en étais jamais douté. » Et elle se sentait pour lui une immense et soudaine amitié. Mais en revanche, ceux qui, comme Swann, avaient ses goûts mais n'en parlaient pas, la laissait froide. Sans doute elle était obligée d'avouer que Swann ne tenait pas à l'argent, mais elle ajoutait d'un air boudeur « Mais lui, ce n'est pas la même chose. » Et en effet, ce qui parlait à son imagination, ce n'était pas la pratique du désintéressement, c'en était le vocabulaire. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs comme tout ce qui venait d'elle, qui l'enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait l'air heureux parce qu'elle devait aller à la reine Topaz ou que son regard devenait sérieux, inquiet et volontaire, si elle avait peur de manquer la fête des fleurs ou simplement l'heure du thé avec muffins et toast au thé de la rue Royale où elle croyait que l'assiduité était indispensable pour consacrer la réputation d'élégance d'une femme. Swann, transporté comme nous le sommes par le naturel d'un enfant ou par la vérité d'un portrait qui semble sur le point de parler, sentait si bien l'âme de sa maîtresse affleurer à son visage qu'il ne pouvait résister à venir l'y toucher avec ses lèvres. « Ah, elle veut qu'on l'amène à la fête des fleurs, la petite Odette. Elle veut se faire admirer. Eh bien, on l'y mènera. Nous n'avons qu'à nous incliner. » Comme la vue de Swann était un peu basse, il dut se résigner à se servir de lunettes pour travailler chez lui, et à adopter, pour aller dans le monde, le monocle, qui le défigurait moins. La première fois qu'elle lui en vit un dans l'œil, elle ne put contenir sa joie. « Je trouve que pour un homme, il n'y a pas à dire, ça a beaucoup de chic. Comme tu es bien ainsi, tu as l'air d'un vrai gentleman. Il ne te manque qu'un titre. » ajouta-t-elle avec une nuance de regret. Il aimait qu'Odette fût ainsi, de même que s'il avait été épris d'une bretonne, il aurait été heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire qu'elle croyait au revenant. Jusque-là, comme beaucoup d'hommes chez qui leur goût pour les arts se développe indépendamment de la sensualité, un disparate bizarre avait existé entre les satisfactions qu'il accordait à l'un et à l'autre, jouissant dans la compagnie de femmes de plus en plus grossières, des séductions d'œuvres de plus en plus raffinées, en menant une petite bonne dans une baignoire grillée à la représentation d'une pièce décadente qu'il avait envie d'entendre, ou à une exposition de peinture impressionniste, et persuadé d'ailleurs qu'une femme du monde cultivé n'y eût pas compris davantage, mais n'aurait pas su se taire aussi gentiment. Mais au contraire, depuis qu'il aimait Odette, sympathisait avec elle, tâchait de n'avoir qu'une âme à eux deux, lui était si doux, qu'il cherchait à se plaire aux choses qu'elle aimait, et il trouvait un plaisir d'autant plus profond non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que, comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour, à cause duquel il les avait préférées. S'il retournait à Serge Panine, s'il recherchait les occasions d'aller voir conduire Olivier Métra, c'était pour la douceur d'être initié dans toutes les conceptions d'Odette, de se sentir de moitié dans tous ses goûts. Ce charme de le rapprocher d'elle, qu'avaient les ouvrages ou les lieux qu'elle aimait, lui semblait plus mystérieux que celui qui est intrinsèque à de plus beaux, mais qui ne la lui rappelait pas. D'ailleurs, ayant laissé s'affaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse, et son scepticisme d'homme du monde ayant à son insu pénétré jusqu'à elle, il pensait, ou du moins il avait si longtemps pensé cela qu'il le disait encore, que les objets de nos goûts n'ont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire d'époque, de classe, consiste en mode, dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguées. Et comme il jugeait que l'importance attachée par Odette à avoir des cartes pour le vernissage n'était pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir qu'il avait autrefois à déjeuner chez le prince de Galles, de même il ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le Rigi fut plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide, et pour Versailles, qu'elle trouvait triste. Aussi se privait-il d'y aller, ayant plaisir à se dire que c'était pour elle, qu'il voulait ne sentir n'aimer qu'avec elle.